Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ravi d'être avec vous, hein, comme chaque lundi. 19h-21h, ça va se décomposer en deux parties. On aura naturellement une première mi-temps qu'on va vivre ensemble jusqu'à 20h. Et on laissera ensuite le témoin à l'ami Eladji et d'autres intervenants dans la deuxième partie donc, de cette émission, c'est-à-dire entre 20h et 21h. Donc je vais saluer l'équipe qui m'entoure ce soir. On va commencer avec Alfred. Bonsoir Alfred. Je suis content de t'avoir.
Hein. Merci, ça me fait plaisir de retrouver les collègues.
Voilà, c'est très bien. Bonsoir Stéphane.
Sorano. Bonsoir, ça va Stéphane? Philippe. Bonsoir à tous. Oui, ça va.
C'était bien la péniche Coca-Cola?
Oui, franchement,
tu vas nous
super.
Raconter un petit peu ça.
Oui, hein, oui,
voilà.
Oui, oui.
Et puis je veux saluer Marius qui va mieux. Ça va Marius?
Oui, ça va, ça va.
Ça va, la sonation, c'est terminé?
Oui, c'est bon. Bah, j'étais déjà là. J'étais
oui, je sais.
Avant,
oui, mais
lundi
dernier, j'étais pas
ouais,
là.
J'étais donc, pas là donc, voilà. Dernier, mais...
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe.
Ouais. Ça s'est bien passé l'athlétisme
bien.
Hier.
Ouais. Oh, très bien.
Ouais, on en reparlera dans une autre émission. Hein, mais
d'accord,
voilà.
Avec plaisir.
Et puis je vais saluer Théo. Bonsoir Théo.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Pleine forme Théo?
Comme hein, toujours. Comme
quand
toujours.
Tu t'apprêtes pour vivre une belle dernière ligne droite maintenant du mondial. Hein,
oui,
parce que là,
parti.
On est rentré dans une autre compétition. Hein, alors que ça vient de commencer également pour le match depuis 3 minutes entre le Brésil et le Japon. Qu'on vous tient, ça sera le fil rouge. Hein, aussi bien pour nous que pour. Elle a dit donc dans la deuxième mi-temps. Bah écoute Vanessa, on te propose ni plus ni
et
moins.
Et on va commencer le journal.
Le journal. Il y a deux nouveaux champions de France et pour le rugby et pour le basket.
Exactement. Donc on ouvre ce journal des sports par du rugby et donc sous l'orage, le Stade Toulousain remporte son 4e bouclier de Brennus d'affilée en dominant Montpellier 28-20 samedi donc soir au Stade de France. Les Toulousains eux marquent l'histoire de leur club en réalisant le même exploit que leurs anciens quadruple champions de France entre 94 et 97. Et donc en basket, Monaco s'impose au terme d'un match 5 fous face à Paris et remporte le championnat de France. Une victoire mardi soir à l'Adidas Arena, 100-92, qui signe un quadruplé cette saison. Donc Super Coupe, Leader Cup, Coupe de France et championnat avant la probable dislocation de l'équipe. En sport automobile maintenant, George Russell s'impose sur le Grand Prix d'Autriche. L'Anglais renoue avec la victoire en devançant Max Verstappen et Kimi Antonelli au classement. Le pilote... L'Italien Antonelli reste leader à 40 points devant Russell. Victoire française en rallye VRC. En Grèce, Sébastien Ogier fait carton plein en profitant sur l'acropole de la mauvaise opération Delphine Evans. 7e pour réduire l'écart au classement pilote. Le Français ne compte plus que 28 points de retard sur le leader anglais. En moto GP aux Pays-Bas, le Japonais Ai Ogura remporte sa première course devant les deux Espagnols. Fernandez et Martine, petit mot de cycliste maintenant. Donc, Romain Grégoire est sacré champion de France pour la première fois de sa carrière. Le Byzantin termine devant Paul Lapeyra et Joris Delbove. Chez les femmes, Célia Géry est sacrée championne de France. Cédrine Kerbaol termine deuxième et Émilie Morier complète le podium. On part à Saint-Étienne maintenant pour les championnats de France de natation qui ont débuté ce week-end. Quelques résultats. On notera par exemple le sac de Johan Endoy Brouard sur le 200 mètres d'eau. Marie Vatel a fait le doublé en 100 mètres nage libre et 50 mètres papillon. Et en 800 mètres nage libre, messieurs, Romain Raguenau a créé la surprise en s'imposant devant le champion du monde David Aubry. Évidemment attendu, Léon Marchand glane un nouveau titre de champion de France sur 400 mètres 4 nages. Et on referme ce journal des sports par l'élection donc, à la présidence de la Fédération française des sports de glace de Philippe Candeloro face à Gwenaëlle Nourry. Voilà pour ce journal des sports, Philippe.
Voilà, il y a une actu comme sportive importante, en dehors naturellement, de la Coupe du Monde. Alors ça y est, messieurs, Coupe du Monde, l'équipe de France, donc on en reparlera demain, mais on va faire aussi un petit peu le bilan ce soir. Donc l'équipe de France qualifiée pour les 16e de finale, un début de compétition parfait, 3 matchs, 3 victoires, Alfred.
De toute façon, c'est pas, pour moi, ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Oui. Parce que la motivation, elle était là, et puis l'éthique et l'équipe en ce moment... dans l'ensemble, produit du bon résultat. Donc, pour moi, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, surtout, ma foi, la maturité d'Adrien Rabiot. Donc, pour moi, voilà, l'équipe est en mesure de remporter cette Coupe du Monde. Moi, je le dis de loin ou de près. Après, comme je dis, la France, elle va parcourt son chemin tout doucement. Donc, il y a de la visibilité très loin. Je pense qu'elle a beaucoup de chance parce que quand on regarde les autres nations, c'est à éliminatoire direct, mais je ne vois pas une nation pouvoir impressionner en ce moment la France. Il faut être honnête avec soi-même et je ne doute pas qu'elle pourra aller plus loin.
C'est une opinion que vous partagez, Stéphane ?
Alors, je ne serais pas aussi direct,
c'est
aussi tranché.
C'est vrai que le premier tour, c'est meilleur depuis 98. Hein.
Oui, c'est vrai. Voilà. 10 buts marqués, 2 encaissés, ouais. Ça n'avait pas été vu depuis. Ouais.
On va rappeler victoire contre Irak 3-0, match qu'on a suivi sur Mon Paris FM et qu'on a revu.
Jusque très très tard. Ouais.
Et qu'on a revu en intégralité donc sur M6, hein, oui. Voilà, sur la plateforme M6. Et puis, victoire également contre la Norvège 4-1, équipe bis. Et on va rappeler que les autres résultats ont vu la victoire de la Norvège sur le Sénégal 3-2 et du Sénégal sur l'Irak 5-0. Ce qui fait que la France donc, termine avec 9 points. C'est une des 3 équipe qui a gagné ces trois matchs, hein, devant la Norvège, deuxième 6 points, troisième le Sénégal 3 points, mais qui termine quand même
termine qualifié meilleur troisième,
meilleur troisième avec
grosse
donc,
performance.
Plus 2, hein, ouais. Mm-hmm. Ouais, et quatrième, donc l'Irak 0 points. Voilà, donc l'équipe de France, pour l'instant, tout va bien.
Oui.
Demain, c'est la Suède, on
oui.
en reparlera.
Jusqu'ici, tout va
ouais.
bien. La France a rempli le contrat, hein, 3 matchs, 3 victoires avec brio. Mm. Donc, honnêtement, assez impressionné par le potentiel offensif. Après, comme on dit, hein, les phases éliminatoires, c'est une autre compétition.
Absolument.
Donc là, ce sont les choses sérieuses qui commencent et ça passe par la Suède avant plus.
Ouais, alors, voilà. Si tout se passe bien sur le terrain, en principe, c'est l'Allemagne qu'on doit retrouver en huitième de finale. Voilà.
Et ça promet. Si oui, vraiment ça arrive, ça promet. Et très franchement, la France a de gros arguments à faire valoir face aux Allemands, oui. au vu de ce qu'on a vu en phase de poule, du côté de la poule de l'Allemagne.
Oui. Marius, tu es d'accord avec ça, l'équipe de France?
Je suis d'accord.
Pour l'instant, tout va bien.
Bah, offensivement, franchement, c'est la meilleure équipe. Hein, y a pas photo. Par contre, défensivement, moi, j'ai un petit problème avec notamment les latéraux. Je trouve que Théo Hernandez, c'est très, très limite défensivement. Offensivement, je trouve qu'il apporte plus forcément beaucoup. Alors, apparemment, ça parle de Lucas Digne demain, titulaire. Alors, Lucas Digne, il n'a pas forcément fait aussi un bon début de Coupe du Monde non plus. De l'autre côté, Koundé, franchement, j'aimerais qu'il fasse un petit tour sur le banc. Moi, je passe à Zaïre Emery, hein, qui peut totalement dépanner
tout à droite.
Oui, mais ce n'est
pas son vrai poste, Zaïre Emery.
C'est pas son vrai poste, mais il a prouvé avec le Paris Saint-Germain qu'il peut être au top niveau à ce poste-là, en tout cas.
En principe, c'est Gusto qui doit suppléer.
Il y a Gusto aussi.
Gusto voilà. aussi, c'est très
Gusto
fort.
Aussi.
C'est un très bon début de mondial.
Mais après, Koundé, moi, franchement, il faut qu'il fasse un tour sur le banc, moi, je pense. Et à gauche, pourquoi pas tester Lucas Hernandez, par exemple. Je sais
ouais,
pas.
Bah oui.
Tester d'autres choses, parce que là, les latéraux, ça va être très compliqué, surtout si on affronte des équipes avec des ailiers rapides, notamment. Ça peut être très compliqué, mais sinon, après, offensivement, il n'y a rien à dire.
Théo, t'en penses quoi?
Je partage à peu près les avis qui ont été émis, en effet assez impressionné de la force offensive des Bleus pour le début de ce mondial, parce que c'était entre guillemets un petit test hein, de la part de Deschamps d'avoir une formation un peu plus offensive qu'à l'accoutumée, mais force est de constater que pour l'instant ça c'est plus qu'efficace, hein, on a marqué à chaque fois dans tous les matchs et surtout des joueurs différents.
Et quel but,
on se repose pas seulement sur Mbappé comme on aurait pu le croire. Dembélé sort de sa poche et aussi marque enfin entre guillemets.
Oui, parce qu'on avait beaucoup critiqué les premiers matchs de Dembélé.
Mais à raison aussi parce qu'en sélection il avait jamais vraiment marqué son empreinte.
Jamais eu de match référence.
Et il s'est rappelé.
Le dernier vraiment souvenir de Dembélé qu'on avait, c'était sa finale contre l'Argentine où il sort à la mi-temps parce qu'il était ignoble totalement dans ce match-là. Donc et ce match face à la Norvège peut aussi lui faire du bien parce que vraiment il a été assez étincelant. Après, en effet, oui, bon, bah, y a un tirage un peu plus compliqué, c'est-à-dire que la Suède, normalement, ne devrait pas poser de problème, et on sait jamais, on va pas se porter l'œil, comme on dit. Mais en effet, dès les huitièmes, potentiellement, jouer l'Allemagne, qui reste tout de même l'Allemagne, même si je nous vois un petit peu au-dessus, parce que je trouve qu'on a un meilleur effectif qu'eux.
Alors, ils nous ont battus 2 fois en Coupe du Monde, et nous, on les a battus une fois. J'ai remonté le temps,
en
58, on les a battus.
Oh, waouh, 58
contre, ouais,
ils nous ont battus en 2014.
2014.
Oui, 3 fois, 82, 86, 2014.
Tout à fait.
Voilà.
Et alors, quel traumatisme en 2014.
Je me suis dit, est-ce qu'on les a au moins battus une fois en Coupe du Monde? Oui, en 58.
Okay, bon.
c'était il y a très longtemps, donc là, il faudrait remettre le couvert.
J'étais même pas né. Hein.
Mais on sait très bien que l'Allemagne, il y a ce vieil adage qui dit qu'un match de foot, c'est deux équipes, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne.
Donc, c'est
un peu moins vrai ces derniers temps.
Mais
attention, attention à cette Allemagne quand même. Hein. Je trouve qu'on est au-dessus, mais bon, ça va être un gros premier rendez-vous.
On leur a rendu la monnaie de la pièce maintenant dans l'euro et dans la Ligue des Nations officielle. l'aura rendu.
Là, c'est la Coupe du Monde, c'est différent.
Donc, on verra. De toute façon, à un moment, si on veut être champion du monde, il faut passer un gros. Hein.
Ah oui, il faut battre tout le monde.
Il faut battre tout le monde si on veut être champion du monde.
Mais le plus tard, entre guillemets, mieux c'est. Enfin, surtout quand on voit que certains sont mieux lotis que d'autres, on en parlera sans doute.
On en parlera plus tard. Et je vois donc qui tu
Du coin de l'œil, ça commence par un A, peut-être.
Bon, sinon, on va remonter donc tous les groupes, puisque ça y est, on en a terminé avec les phases de poule. D'abord, un petit mot, comment vous avez trouvé ces phases de poule? D'une façon générale.
Absolument interminable.
Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Un peu longue.
Interminable.
Ouais.
Les horaires après aussi. Ça, c'est normal. Mais moi, j'avoue que.
T'as pas vu des matchs sympas quand même?
Si, y avait bien sûr qu'il y a eu des matchs sympas. Et heureusement, parce que sinon, on serait un peu ennuyé. Surtout si à 6h du matin, on se levait pour rien. Mais sinon, non, il y a eu des très bons matchs. Après. Moi, je trouve que j'ai eu une habitude à avoir des matchs le soir, machin et tout. Je commençais à rentrer dans cette espèce de mood un petit peu. Hier, par exemple, on n'a eu qu'un seul match le soir.
Ça t'a fait drôle.
Ça fait un peu bizarre. Donc voilà, non. Moi, en tout cas, je trouve que un peu long, mais j'ai trouvé ça sympa. Ouais.
Il y a eu quand même quelques matchs sympas. Brésil,
il y a eu des belles histoires.
Beaucoup.
Angleterre, Croatie, oui. C'est des matchs sympas. Il y a quelques belles histoires.
Les matchs de la France.
Dont on va parler.
Petites équipes dont on parle de. Il y a 150 000 habitants, 400 000 habitants. Il y en a quand même qui ont fait des performances. On pensait qu'ils se prendraient trois raclées. Non. Je pense au Cap-Vert. Je pense à Curaçao qui a fait bonne figure. Je pense à Haïti qui a fait bonne figure aussi.
Alfred, il y a des matchs qui t'ont plu?
Oui, surtout l'espoir réalisé par le Sénégal face à l'Irak.
Oui, ils reviennent de très loin.
La première fois, une nation africaine gagne 5-0, c'est quand même quelque chose à saluer. Surtout,
le Sénégal était plus que défavorable dans son propre contexte. Remonter 5 buts, enfin marquer 5 buts et se placer parmi les meilleurs troisièmes quand avant le match il y avait 0 point au compteur, c'est une très très belle performance. Ils reviennent de loin et c'est beau aussi.
Allez, on va monter, on va remonter un petit peu tous les groupes. Après l'équipe de France qualifiée, donc l'équipe de France qualifiée, la Norvège qualifiée et donc tu l'as dit, le Sénégal aussi qualifié. Dans le groupe A, les matchs qu'on avait pas pu commenter depuis la semaine dernière, c'était le Mexique qui a battu la Tchéquie 3-0 et l'Afrique du Sud qui a battu la Corée du Sud 1-0. Donc le Mexique, c'est la deuxième équipe à finir avec 9 points aussi, donc 9 points en tête devant l'Afrique du Sud, deuxième 4 points, troisième la Corée du Sud 3 points et quatrième la Tchéquie 1 point. L'Afrique du Sud était donc qualifiée, mais depuis l'histoire s'est arrêtée puisque ils ont été éliminés hier par le Canada 1-0, donc dans le premier 16e de finale. Vous en avez pensé quoi? Un petit peu de ce groupe, du Mexique et puis de l'élimination
d'Afrique du Sud. Il me semble que le Mexique est la seule équipe à s'être qualifiée en prenant aucun but.
Ah oui,
par rapport à l'équipe de France.
Ce qui est assez notable, et ils sont vraiment, pour moi, une des grosses sensations de cette Coupe du Monde. On attendait évidemment les pays hôtes au tournant, comme souvent dans les Coupes du Monde, mais là, je trouve qu'ils font vraiment une très 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 belle phase de groupe, et j'ai hâte de les voir ensuite en 16e. Pour l'Afrique du Sud, c'est un peu dommage. Je les trouvais pas au niveau.
Ouais, ils sont à leur niveau.
Et le match, ils sont fait dominer. Moi, j'ai trouvé.
Après, ça s'est joué à pas grand chose. À la 93e.
Mais s'ils auraient tenu pendant les
Moi, j'ai trouvé. Il y a eu certaines phases de jeu où j'avais un petit peu peur pour le Canada parce que le Canada, ils ont pas l'habitude de jouer. Enfin, ni l'Afrique du Sud, mais ils ont pas l'habitude. Par moment, le Canada, j'ai trouvé qu'ils ont baissé de régime. Ils auraient pu se faire avoir. Ils ont pas été cliniques dans les bons moments, le Canada. Du coup, j'avais un petit peu peur que justement, il se fasse avoir sur ça. Ouais.
C'est le défaut du Canada, c'est une équipe qui attaque beaucoup, mais
qui marque assez peu.
Il y a beaucoup de problèmes d'efficacité dans la finition.
Et puis, je l'ai dit, c'est historique pour eux parce que c'était la première fois pour eux qu'ils allaient aussi loin et c'est la première fois qu'ils se qualifient en plus en 8e de finale de l'histoire.
Donc, il n'y a pas un pays de football en plus.
Donc, ça compte évidemment dans les têtes. T'as raison, Marius, dans un match, comment gérer la pression, le momentum, c'est plutôt compliqué.
Oui. Alfred ?
Moi, je pense que la victoire est méritée pour le Canada. Après, l'Afrique du Sud. Bon, elle a un peu dominé, mais vers la fin, c'est le Canada qui a réussi à avoir la victoire. Même le but du Canada, je crois, il y a eu un rebond.
Quelque part,
il y a un peu ça qui a joué un peu côté faveur canadien. Donc pour moi, après, il faut reconnaître que, de toute façon, nous qui aurions dans le match, moi, je ne voulais pas que le match parte
en prolongation.
Pourquoi? Parce que le pause de fraîcheur et tout ça, ça devenait un peu compliqué à suivre. Donc voilà, pour une fois, le Canada, en tant que pays organisateur, passe devant. C'est à féliciter.
Oui,
Ouais. Et toujours 0-0 entre le Brésil et le Japon.
Après un quart d'heure de jeu.
Ouais. Donc, sous les yeux du mythe du football brésilien, un des mythes, donc Ronaldo. Voilà. Okay. Tiens, dans le groupe B, bah, justement, le Canada, on est sorti deuxième de ce groupe. Ils ont été battus par la Suisse 2-1. Et la Bosnie-Herzégovine avait battu le Qatar 3-1. Donc, ça lui vaut de se qualifier malgré tout. La Suisse en tête avec 7 points. Devant le Canada, deuxième, 4 points. Troisième, la Bosnie aussi 4 points. Mais il y a un goal average quand même plus favorable pour les Canadiens. Plus 5 contre moins 1 pour la Bosnie, et quatrième, le Qatar, un point. Vous en pensez quoi de ce groupe ?
Honnêtement, ce groupe-là, c'était difficile de voir du beau jeu, sans mentir.
La Suisse a été plus efficace et plus réaliste quand même.
Voilà,
que le Canada,
c'est l'enseignement principal qu'il faut noter, c'est que la Suisse, malgré tout, ils ont été plus efficaces dans les moments clés. Je pense notamment au match contre la Bosnie-Herzégovine où il y avait justement 0-0 avant le dernier quart d'heure, puis c'est parti en freestyle complet, 4-1 à la fin du match. Non, la Suisse a fait honneur à ce groupe, et le fait de voir aussi la Bosnie qualifiée parmi les meilleurs troisièmes, bah, ça envoie un signal comme quoi c'est pas parce que c'est un petit pays qui n'est pas en possibilité, en mesure de se qualifier pour la phase éliminatoire de Coupe du Monde avec ses propres moyens. Donc très clairement, la logique a été respectée.
Ouais,
c'est
mais c'est une équipe qui défend beaucoup quand même.
Oui,
c'est leur jeu.
C'est leur jeu. C'est leur jeu. Ils jouent avec leurs propres moyens. Quand on a dans cette équipe, quand on a comme taulier certains Edin Dzeko, un taulier leader de vestiaire, leader naturel. Ouais. Derrière, c'est un peu plus compliqué au niveau des joueurs à citer, des joueurs de haut niveau à citer dans cette équipe. Quand je dis haut niveau, c'est vraiment le très haut niveau, c'est-à-dire jouer dans des grands clubs européens. Bah, on fait avec ce qu'on a, et quand on fait avec ce qu'on a, on y met du cœur, on y met de la solidarité, on y met de l'envie, et ça donne un scénario comme celui de la Bosnie-Herzégovine qui aurait pu finir la dernière de son groupe.
Hein, oui, c'est ça, c'est pour ça. Ouais. Et ils joueront les Américains en 16e de finale. Donc,
match plus difficile qu'il n'y paraît. Mmh. Les Américains.
Ouais, ouais. Mmh. Et puis peut-être l'opposition d'hostile parce que ça attaque. Hein.
Ah oui, oui.
Ça attaque. Hein. Bon, bah, dans le groupe C, justement, tu parlais d'Haïti. Oui. Ils ont été battus par le Maroc. Mais un match de folie. 4-2.
Match exceptionnel.
4-2. Hein,
4-2. Les Haïtiens ont vraiment, vraiment tenu la dragée haute aux champions d'Afrique. Je retiens, évidemment. Parce que tout le monde a compris, on retient tous le deuxième but haïtien, le missile de Wilson Isidore, chronométré à 126 km/h en première période. Ça fait 2-2 juste avant la fin de la première période. Puis derrière, bon, c'est un petit peu physiquement que ça a pêché avec des erreurs techniques assez grossières. Le troisième but marocain, franchement, rien à dire. Mmh. C'est un bon but collectif. Le 4-2, c'est là où c'est plus dur, parce que le quatrième but, c'est vraiment la toute fin du match. Le défenseur Arcus aurait dû laisser sortir. Il a fait protection de balle, mais pas jusqu'au bout. Du coup, Soufiane Raimi s'est arraché pour aller récupérer le ballon sur la sortie de but et donner l'offrande à Jessim Yassine, qui a marqué son premier but en Coupe du Monde. Revu avec la VAR, mais validé avec la VAR. Donc, dommage, le score est sévère, mais je tiens quand même à féliciter les Haïtiens et leurs supporters parce qu'ils ont fait plus que bonne figure.
Mais c'est un des beaux matchs de ce premier tour.
Tout à fait.
Justement.
Tout à fait.
C'est un de ces beaux matchs de ce premier tour. Il n'y a pas eu de suspense, par contre, pour le Brésil qui a battu l'Écosse 3-0. Hein, le Brésil qui était régulièrement dans la maîtrise, hein, qui s'est largement imposé et qui termine donc en tête de son groupe, mais à égalité avec le Maroc quand même. 7 points.
Oui. Hein. Oui.
C'est le goal average. Hein, plus 6 pour les Brésiliens contre plus 3 pour les Marocains, qui leur permet de finir premier de cette poule. Troisième, donc, l'Écosse, 3 points. Et quatrième, donc, Haïti, 0 points. Voilà. Dans le groupe D...
Juste à préciser, avant de passer sur le groupe suivant, il y a une information concernant la section haïtienne, puisque Sébastien Minier a été démis de ses fonctions. Ils sont en recherche d'un nouveau sélectionneur pour les prochaines compétitions, notamment dans la zone CONCACAF.
Bah, il considère que c'est un échec, ce mondial, alors ?
Non, pas du tout. C'est lui qui voulait partir. Ça se passait pas très bien en interne aussi avec la fédération haïtienne de football. Donc, a préféré couper court. Merci pour tout. c'est tout ce qu'il faut dire. Merci pour tout. Et puis voilà, Haïti qui est en recherche de son nouveau sélectionneur. Ouais. Pas encore de nom qui a filtré jusqu'ici.
Alfred, le Brésil, c'est une équipe qui, pour toi, peut nous surprendre ?
La compétition aujourd'hui à l'élimination directe.
Oui, justement, ça peut être un autre Brésil.
Voilà, ça peut être un autre Brésil au fur et à mesure qu'on avance.
Oui.
Maintenant, jusqu'à présent, elle est modeste. Hein, elle n'a pas encore convaincu. Le retour de Neymar n'a pas fait changer grand chose. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'attaquant du Real Madrid est là. Dans l'ensemble, voilà, ça reste le même Brésil. Hein. Mm-hmm. Donc je pense que Marquinhos est en défense. Donc pour l'instant, on observe. Mais le Brésil n'est pas au-dessus comme on entend parler du grand Brésil. Donc on va essayer d'observer pour voir, mais elle peut produire quelque chose.
Et pour l'instant, donc toujours 0-0 contre le Japon. Mais Marius, on suit le match en même temps, pas véritablement d'occasion pour l'instant, de part et d'autre.
Ouais. Le Brésil qui domine un petit peu, oui, mais sinon, sans plus.
Surtout au niveau de la possession du ballon.
Voilà, ouais, c'est juste ça.
Alors, dans le groupe D, eh bien, la Turquie, il y a eu un petit baroud d'honneur. Ils ont battu les USA 3-2. 0-0 entre le Paraguay et l'Australie. Ce sont les USA, donc, on l'a dit, qui terminent en tête avec 6 points. Devant deuxième, quand même, l'Australie, 4 points. Troisième, le Paraguay aussi, 4 points, mais un goal average inférieur, moins 2, alors que l'Australie avait 0. Et quatrième, la Turquie, 3 points. C'est la grosse déception quand même. La Turquie, on pouvait penser quand même qu'ils pouvaient aller chercher un 16e de finale.
Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Hein, non, la Turquie, surtout alors, au vu du dernier match.
Ils terminent dernier avec 3 points, alors qu'il y a des groupes qui qualifient avec 3 points.
Oui, bah, c'est ça le problème aussi de cette Coupe du Monde. Mais non, Turquie, grosse déception, surtout au vu du dernier match. Franchement, ça a bien joué. Puis les États-Unis, c'est pas un petit morceau. On l'a vu sur début de Coupe du Monde. Ouais. Donc franchement, déçu. Puis après, bah, le match nul entre l'Australie et le Paraguay, c'est aussi le problème de ce format de cette Coupe du Monde. Le nul a rangé tout le monde. Ouais, du coup, il y a eu littéralement un non-match des deux équipes. Voilà, ça, bah, même sur d'autres équipes qu'on va parler plus tard. Hein. Mm-hmm. Mais non, franchement... Déçu de la Turquie et de ce groupe, bah, sinon les États-Unis a largement dominé son groupe. Hein,
alors, je n'ai pas compté, il doit y avoir 5-0-0 à peu près. 5 ou 6-0-0.
Bah, 5 ça m'étonne, ça étonne pas.
5-0-0 à peu près. Hein. Ouais, donc voilà. Mmh. Bon. Donc, Turquie, déception. Dans le groupe E, le Curaçao a été battu par la Côte d'Ivoire 2-0. Ça a permis à la Côte d'Ivoire de bien renverser la situation. Et l'Équateur, surtout, qui bat l'Allemagne 2-1. Ça veut dire que...
Très, très chouette match. Ouais, aussi,
l'Allemagne a pris ce match complètement démobilisé. C'est souvent le cas du troisième match. Hein. C'est souvent le danger du troisième match. Hein. Déjà qualifié à Europe.
Déjà qualifié, déjà premier.
Ouais, oui, déjà premier, oui.
Toi qui termines avec le même nombre de points que la Côte d'Ivoire, du coup. Hein,
oui,
parce que l'Allemagne a 6 points avec plus 6 au goal average.
Voilà,
et la Côte d'Ivoire, 6 points plus 2 au goal average. Troisième, l'Équateur, 4 points. Et quatrième, donc, le Curaçao, 1 point. Voilà.
Bah, faut saluer quand même la performance des Équatoriens face aux Allemands. Parce sur le papier, il n'y a pas beaucoup de monde qui prédisait un tel résultat.
Moi,
peut-être
premier,
un nul.
Hein. Ouais, moi,
bien sûr.
Le dire.
Bien sûr. Ça peut se comprendre.
Ouais.
Donc, vraiment, ils ont joué leur va-tout. Peu importe les enjeux de ce match, ils ont vraiment joué leur va-tout. Ils ont joué leur football jusqu'au bout avec beaucoup de solidarité. Moi, j'ai bien aimé le match comment il s'appelle, l'ailier gauche équatorien. Argelo, pardon, qui a mis un bouillon pas possible sur le côté gauche, côté équatorien. Franchement, c'était un très beau match à suivre. Et puis, le fait d'aller chercher la victoire à toute fin du match, quasiment à trois joueurs dans la cage sur ce dernier corner, franchement, c'était une belle victoire, une très belle victoire qui comptera sur le plan historique.
Il me semble qu'ils ont carrément fait un jour férié pour la qualification.
Bah ouais.
C'est.
Quand on connaît la passion du foot
en Amérique du Sud,
puis c'est tellement important pour des pays comme ça.
Oui. Bien sûr, et surtout l'expérience de Valencia, qui lui est assez costaud. Oui.
Très, très Pacho costaud.
Aussi, très costaud,
j'ai trouvé. Oui, Pacho, notre ami Pacho.
Intraitable, une fois de plus, sur la ligne défensive. Ligne à 3, en plus.
Ouais. Mais ces situations pareilles, ça devient un peu récurrent au niveau de l'Allemagne. Même les derniers mondiaux qui se sont passés, se sont fait battre comme ça, pas la Corée du Sud ou le Japon.
Ça leur avait coûté l'élimination.
Oui, tout à fait.
Deux Coupes du Monde consécutivement au premier tour.
Il y a le Japon, après le Japon.
Que là, ils étaient qualifiés, ils ont peut-être pris un petit peu
de
match.
Et ce match-là, l'Allemagne, elle a joué complètement avec son équipe. C'est pas une équipe...
Ah oui, c'était pas une équipe B.
Elle a pas tourné comme par exemple les Norvégiens qui ont fait ce choix-là.
L'Allemagne, elle fait pas trop peur, je vous le dis.
Je suis totalement d'accord.
Quand on se souvient de la prestation notamment de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne, on peut se dire que il y a des équipes qui ont de sérieux arguments à faire valoir pour bousculer l'Allemagne.
Bien sûr. Allez, le groupe E, justement, avec nos amis la Suède qui avait fait match nul contre le Japon, qu'on voit ce soir contre le Brésil, un partout, et les Pays-Bas qui ont donc atomisé une nouvelle fois la Tunisie 3-1. Les Pays-Bas donc qui terminent largement en tête dans ce groupe avec 7 points devant le Japon, 5 points deuxième, troisième la Suède, 4 points, c'est ce qui voudra donc le fait aux Suédois de nous rencontrer, et quatrième la Tunisie, 0 points. Ça, c'est une grosse déception quand même. Hein.
C'est une catastrophe industrielle. Pas d'autre mot.
C'est le seul pays d'ailleurs du continent africain qui passe pas. Donc c'est le premier tour.
Oui, c'est une catastrophe industrielle. Déjà, le fait d'avoir engagé Sabri Lamouchi à quelques encablures du mondial, c'était déjà une mauvaise décision en soi. Parce que, comme l'a souligné Ali Abdi à l'interview d'après-match du deuxième match, elle a dit que toutes les équipes qui jouent la Coupe du Monde, elles se sont préparées. Les effectifs se connaissent depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Le coach, il est là depuis plusieurs années aussi. Là, on change tout à la dernière minute, c'est pas sérieux, et je le rejoins totalement sur ce sujet. Donc, une catastrophe industrielle, et puis... Puis voilà, honnêtement, il y a juste rien à dire parce que tout a été mal fait de A à Z sur la présence de la Tunisie à la Coupe du Monde, alors que bah il y a potentiellement un bel effectif qui aurait pu se présenter pour la Tunisie. Donc clairement, on arrête les frais. C'est clairement ce qu'on a vécu.
Moi, je rappelle qu'ils avaient signé l'exploit de leur vie en nous battant il y a quatre ans au Mondial 1-0.
Oui, tout à fait.
Justement, dans ce fameux troisième match où on avait fait un petit peu tourner. Aussi, allez, tiens, on en parlait la semaine dernière du match de l'Égypte, et l'Égypte qui a battu la Nouvelle-Zélande 3-1. Qui a partagé les points contre l'Iran 1-1, et la Belgique a battu aussi la Nouvelle-Zélande 5-1. La Belgique qui termine en tête à égalité quand même. Avec l'Égypte, hein, premier 5 points, mais un goal average de plus 4 contre plus 2 pour l'Égypte. Troisième l'Iran 3 points, quatrième la Nouvelle-Zélande 1 point. La Belgique,
c'est
Garcia a beau défendre ses joueurs, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que c'est du Rudy Garcia dans le texte. Ceux qui se souviennent de Rudy Garcia à l'OM, à Lyon, ils revoient exactement les mêmes qualités et les mêmes faiblesses tactiques. Le fait de jouer de manière assez poussive, avec beaucoup de problèmes déjà au milieu de terrain un peu dépeuplé, je trouve, du côté de la Belgique, mais aussi et surtout un système tactique assez pauvre. Tout le monde sait ce que Rudy Garcia prépare, peu importe ses équipes, et c'est ça qui est triste, en fait. C'est pour ça que là, il y a des matchs. Alors, il y a des matchs, ça va fonctionner, et il y en a d'autres où, quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est dur.
Pourtant, il y a de la qualité.
Il y a de la
qualité, beaucoup de qualité. Moi, je pense Doku, par exemple, qui est un joueur. T'allumes ta télé pour regarder ce genre de joueur. Manchester City, il nous fait des folies. De Bruyne, bon, même s'il est vieillissant, c'est toujours De Bruyne. Il peut te mettre des caviars devant la surface. L'expérience de Lukaku, par exemple, qui est maintenant d'ailleurs titulaire. Bon, après, c'est un peu compliqué. Lukaku, il a pas joué du tout cette saison. Puis il y a Courtois.
Courtois est toujours présent en tant que taulier.
Il y a quand même des gros noms, quoi, dans cette équipe.
Alfred,
oui,
les Belges.
Les gros noms, ils y sont. Mais le problème, c'est qu'il faut reconnaître que la Belgique, elle a en fin de parcours, c'est plus la même Belgique d'avant. C'est un peu ça qu'il faut reconnaître. Ouais. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus leur intérieur gauche. Hazard n'est plus là. De Bruyne, ça tourne plus comme avant. Donc du coup, voilà, ça devient inquiétant. Donc pour moi, voilà. Et puis bon, l'entraîneur, c'est pas... Voilà, ce que les gens... Voilà, même... Donc pour moi, ouais, elle joue... je crois qu'elle joue bientôt contre le Sénégal.
Ça va être très compliqué.
On va en parler des matchs.
Voilà, la Belgique reste modeste vis-à-vis du Sénégal. Donc pour moi, c'est qualifié à reconnaître, mais il faut reconnaître que la Belgique en fin de cycle.
Une belle performance aussi, c'est l'Égypte.
Justement, particulièrement
au niveau, alors que moi je pensais qu'ils allaient prendre vraiment le bouillon.
But du Japon, ouverture du score par le Japon.
28e minute, but du Japon, c'est pas possible. La surprise, on l'avait dit. Attention, attention, le Brésil,
c'est un match de piège. C'est
en direct, c'est 28e minute de jeu, Théo, en direct.
Une magnifique frappe, vraiment une percée. Il y avait presque plus personne dans la défense. Entrée de surface, une frappe à terre à droite d'Alisson. Il peut rien faire, il plonge le gardien brésilien, mais il se fait avoir 29e minute. Et là, le Brésil, attention, Ancelotti mâche son chewing-gum, mais attention.
Vous imaginez le Brésil topé de football?
C'est Sano qui marque le
Sano, vous une imaginez un peu.
On disait, attention.
C'est ce qu'on disait. Voir le Brésil se faire sortir aussitôt de la compétition, ça a toute la catastrophe industrielle pour ce pays, ce grand pays de football. Mais c'est pas impossible parce que le Japon a de sérieux arguments à faire valoir sur le terrain. C'est un match plus ouvert qu'on ne le pense.
Par rapport à toutes les grandes nations de nom, je trouve que le Brésil est de loin la plus faible. Donc une magnifique interception de Sano au milieu de terrain.
Et il va tout seul.
Et il y va tout seul. Il s'ouvre tout seul la porte, petit filet, c'est magnifique.
Voilà, donc vous le vivez sur mon Paris FM. 1-0 donc pour le Japon au bout de 29 minutes de jeu face au Brésil, pratiquement sur la première grosse occasion. Première grosse occasion. Mal barré, nos amis brésiliens.
De toute façon, il faut reconnaître que la formation japonaise, elle est très athlétique.
Oui.
Ils sont tout en mouvement et puis bon, les enseignements se passent bien. Maintenant, tout à l'heure, le Brésil était en période d'observation, regardant le ballon, mais n'avait pas d'action concrète pour pouvoir marquer. Donc, le Japon a dû saisir l'occasion qu'elle a eue pour pouvoir mettre le premier but.
Oui, donc par Sano à la 29e. Alors, on va voir si le Brésil va pouvoir donc réagir. Alors, dans le groupe H, on a eu la bonne surprise, le Cap Vert, 2-2 contre l'Uruguay.
Superbe histoire, le Cap Vert.
0-0 aussi contre l'Arabie Saoudite. 3 matchs nuls, mais qui les envoie, c'est un paradoxe quand même. Donc en 16e de finale. Et puis, pour la petite histoire, l'Espagne qui a battu l'Uruguay 1-0. Donc, l'Espagne qui finit très largement en tête dans ce groupe avec 7 points, devant le Cap Vert qui est la deuxième équipe avec 3 points. C'est sa deuxième équipe avec le Sénégal qui se qualifie avec 3 points. Zéro pile hein, au niveau du goal average. Troisième, l'Uruguay, 2 points. Et quatrième, donc l'Arabie Saoudite, 2 points, mais moins 1 pour l'Uruguay et moins 4 pour l'Arabie Saoudite. Quelle déception quand même l'Uruguay. Ce grand pays de football quand même.
Oui, grand pays de football, mais là aussi, on parlait de la Belgique tout à l'heure qui était en fin de cycle. L'Uruguay, c'est pareil. Il hein. n'y a plus Luis Suarez, il n'y a plus Edinson Cavani. Je pense aussi à d'autres joueurs comme Fusilé, comme Diego Laxalt, Diego Lugano. Enfin, il y a plein de bons joueurs de l'Uruguay qu'on citait comme étant, comme faisant partie des meilleurs mondiaux par le passé. Ces joueurs-là ne sont plus là. Et ceux qui les ont remplacés n'ont pas tout à fait le niveau de cette Coupe du Monde. Et pour couronner le tout, ça s'est très mal passé dans le vestiaire avec Marcelo Bielsa. Hein. Bah et ça date pas d'aujourd'hui.
Mais Bielsa, c'est toujours compliqué.
C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Hein.
Non, mais ça a toujours été compliqué. Ça se termine toujours mal.
Oui, parce que c'est un passionné, Bielsa. Ouais. C'est un passionné qui met de l'intensité dans tout ce qu'il fait et peut-être plus que de raison quand on écoute les déclarations des anciens joueurs qui sont passés sous son ère. Mais oui, c'est une déception, d'autant plus que de l'autre côté, on parle d'Uruguay comme déception, mais le cas adverse, c'est vraiment la belle histoire.
Ah oui, ça c'est la belle histoire. Alors, ils vont jouer l'Argentine, mais quoi qu'il arrive, le
contrat est rempli. Ils font la fierté du pays.
Trois matchs nuls, pas de défaite.
Et surtout
contre l'Espagne. C'est ça qui.
Contre l'Espagne, ils ont accroché le championnat.
Au fait.
Ah bah ça restera jamais dans leur vie. Quoi.
Ah oui.
Et moi, l'Espagne que j'ai pas forcément trouvé très très convaincante sur les trois matchs, honnêtement. Donc le premier match, après il y avait pas Yamal, machin.
On va en parler dans le groupe de l'Espagne, mais c'est vrai que
j'ai pas trouvé étincelant moi.
Ça fait partie des équipes un petit peu, j'allais dire décevantes sur ce premier tour, mais attention. Mais
ils peuvent monter en puissance aussi, c'est-à-dire
ils sont programmés pour ça en principe.
Oui,
donc on verra. Le groupe J, justement, une équipe qui a fait bonne impression par contre, l'Argentine, qui a battu l'Autriche 2-0. L'Algérie, on en parlait aussi la semaine dernière, donc qui a battu la Jordanie 2-1. 3-3 dans un match un peu fou entre l'Algérie
et
l'Autriche. Vous voyez comme quoi il y a eu match, contrairement à ce qui avait été dit. Et puis la Jordanie battue par l'Argentine 3-1. L'Argentine, troisième équipe à finir avec 3 victoires, donc première avec 9 points. Devant l'Autriche, deuxième, 4 points. Troisième, l'Algérie, 4 points. Mais l'Autriche, donc, a un goal average supérieur, 0 contre moins 2 pour l'Algérie. Et quatrième, la Jordanie, 0 points. Donc là, il y a trois équipes qui se qualifient.
C'est ce qu'on disait la dernière fois vis-à-vis de l'Algérie par rapport à la Tunisie. Ouais. La Tunisie, il n'y avait rien à sauver. La Tunisie, il n'y avait rien à sauver. Autant l'Algérie, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère. Il y a énormément de lacunes, il y a pas mal de choses à dire. Vladimir Petkovic, il est décrié comme pas possible depuis le début de son mondial et même bien avant. Mais c'est une équipe qui a quand même du caractère, qui a de la fierté. Et ils l'ont vu, on l'a vu dans le match contre la Jordanie et surtout contre l'Autriche, où je pense qu'on ne s'est pas privé de rappeler le fameux match de la honte, mondial 82, où les deux équipes
ont failli les éliminer.
Un non-match entre l'Allemagne et puis l'Autriche
pour éliminer l'Algérie. À mon avis, je pense que ça a dû rappeler ce match-là dans les vestiaires
Mais on avait peur dans ça, on avait peur que ça se
fasse. Il y a eu un petit peu de schéma quand même, parce qu'à partir du 2-2, ça joue plus du tout.
Ah, pas du tout, mais
ça s'est complètement arrêté de jouer.
Tout le monde est surpris que Mahrez marque ce but
à la dernière minute en plus.
Et même les supporters algériens sont surpris parce que ça les arrangeait pas vraiment.
Ils ont célébré le but de l'Autriche après. Parce que faut rappeler que le deuxième joue du coup l'Espagne.
C'est pour ça que c'est important. Les goal average, c'est important. Hein, ça peut déterminer la suite du tableau et la suite de la compétition. Quoi.
L'Autriche n'avait pas le choix de marquer, sinon ils étaient éliminés. Donc c'était assez dingue.
Il y a certains joueurs que j'aime beaucoup. Je pense à Shaibi par exemple. Shaibi, je le trouve très très bon. Après, il y a un problème, c'est le gardien. Entre Zidane et Ben Botts,
il n'y a rien à garder.
C'était pas pire, mais
je pense qu'il peut sortir les trois très facilement, mais je pense qu'il fait. Mais donc ça va être un gros point noir. Je sais pas, essayer de réparer. Je sais pas s'il faut remettre Zidane ou il faut garder Ben Botts.
faut rappeler Rice Emboli.
Mais ça va être très compliqué là pour le reste de la compétition.
Après avoir affecté mentalement ton premier gardien en le sortant, tu peux difficilement le rappeler parce que les mentalités de gardien, c'est vraiment très différent. Il s'est mis une épine dans le pied parce que là, il sait pas du tout arranger la chose.
Alfred, t'en penses quoi, toi, l'Algérie là, qui s'est refait une petite santé pour cette dernière journée des phases de poule?
Je n'ai pas vraiment suivi le match de l'Algérie, mais bon, l'Algérie a revu.
3-3, ça a été un match spectaculaire, en tout cas, contre l'Autriche. Un match complètement fou. Un de ses bons matchs aussi du premier tour.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais c'est vrai qu'il n'était pas très bien engagé. On se demandait s'ils allaient se qualifier. Bon, ils ont su quand même redresser la situation. Puis on verra
c'était
pour la suite.
Une situation qui était difficile. Ouais. Le match contre la Jordanie, c'était vraiment le match de la dernière chance pour l'Algérie. Donc, bravo à eux de s'être qualifiés de cette manière en venant d'aussi loin.
Où l'Argentine a vraiment survolé ce groupe.
Messi a survolé.
Oui, Messi a survolé le groupe.
Il n'est pas tout seul.
C'est lui et ses 10 lieutenants.
Oui, c'est ça. C'est ses hommes de main.
Voilà, c'est ça.
Comme ça.
Quand vous parlez de Messi, c'est le meilleur buteur.
Oui.
Il a même mis un coup franc alors qu'il jouait pas, il était pas titulaire. Il a mis son coup franc.
Le grand
des Mbappé. Le gardien en plus. Voilà. Il finit les phases de poule en tête des buteurs. On verra après, mais voilà.
Ah, ça va être compliqué de le rattraper quand même.
Ouais. Bon, par contre, dans le groupe K, nos amis portugais, pas une entame terrible. Ils ont battu l'Ouzbékistan 5-0. La Colombie a battu la République du Congo 1-0. 0-0 entre justement la Colombie et le Portugal. Et puis la République du Congo, quand même, qui va chercher sa qualification en battant l'Ouzbékistan 3-1. C'est la Colombie qui termine en tête avec 7 points. Devant le Portugal, deuxième, 2 points. Ça va compliquer la tâche des Portugais. Donc la République du Congo termine 3e avec 4 points. Et 4e, donc l'Ouzbékistan, 0 points. Alors, si on dit des
assez
équipes qui n'ont pas très bien commencé dans
la
compétition. On en parlait un petit peu, les problèmes qu'a l'entraîneur avec cette équipe, c'est pas une entame favorable.
Très inquiet, et surtout vu le match qu'ils ont fait face à la Colombie.
Oui.
Alors bon, ils savaient qu'ils étaient qualifiés, mais il y avait quand même cette première place qui pouvait sécuriser un meilleur tirage. Mais pour avoir vu le match, ce qu'a fait la Colombie au Portugal pendant les 90 minutes... C'est une hérésie que ça termine à 0-0. Quoi.
Il
marque à la 89e, un truc comme ça, et hors-jeu de 2 centimètres. De pointure 45, quoi.
C'est ça. S'il faisait du 44, exactement. Il y aurait eu but validé, quoi.
Ça se joue à rien du tout. Mais on joue ce match 10 fois. La Colombie gagne 9 fois parce qu'ils ont été maladroits devant le but et ils ont dominé, mais archi dominé le Portugal qui. Moi, m'inquiète énormément. Après, j'espère qu'ils vont, comme on dit, monter un petit peu en gamme, mais je vois pas comment, en fait.
Honnêtement, je vois pas non plus.
Parce que leurs ailiers, c'est des cadavres.
Oui. Ouais.
Ronaldo devant.
Le terme est posé.
Ronaldo, il est très vieux, mais avec des ailiers qui le servent, il pourrait faire quelque chose.
Ouais.
Là, il sert à rien. Parce qu'il redescend, essayer de construire le jeu, il ne sait pas le faire, il ne peut plus le faire.
Ouais.
Au milieu de terrain, Neves fait un petit peu ce qu'il peut, je trouve. Vitinha est pas bon.
Oui. Ouais.
Fernandez fait un petit peu ce qu'il peut aussi parce qu'il y a des mecs qui redescendent, il n'y a pas énormément
justement, tu dis que Vitinha n'est pas bon, la différence.
PSG est très bon.
Non, mais justement, c'est pas qu'il n'est pas bon. Non, justement, faut apporter la précision là-dessus. C'est que Vitinha au PSG, il a des ailiers qui bonifient ses passes.
Quoi.
Tu fais bien de le préciser. Les ailiers portugais dans cette sélection, c'est pas qu'ils ne servent à rien, c'est qu'ils n'apportent rien. Ouais. Chaque passe envoyée par Vitinha revient systématiquement en arrière ou donne un centre qui va nulle part. Et ça, c'est pour le coup, c'est pour ça qu'on parle de Vitinha comme système player. Non, mais à un moment, faut arrêter avec ça.
Non,
Vitinha, c'est un excellent joueur, c'est un excellent milieu de terrain, fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Mm-hmm. Juste qu'il est pas verni parce que, tu l'as bien dit, les ailiers, que ce soit à gauche ou à droite, ne font pas leur boulot.
Neto fait valoir sa vitesse, mais sinon, il n'y a rien.
Mais c'est tout, il n'y a rien.
Et de l'autre côté, Bernardo Silva, mais c'est l'ombre de lui-même.
Choqué. C'est encore pire quand on pense que juste avant la compétition, il a signé au Real Madrid. À quel moment?
Et de l'autre côté, quand tu fais sortir Neto, tu fais rentrer Leao, qui ne passe pas un dribble.
Lui qui est réputé pour avoir une sacrée qualité de
jeu.
João Félix ne sert à rien. Elle me fait très 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 peur cette équipe du Portugal parce que si elle est à peu près solide défensivement, je ne sais pas comment ils vont marquer.
Alors, en plus, ils jouent la Croatie.
C'est pas un cadeau.
Et je crois que s'ils passent, ils vont jouer. Je sais plus, c'est l'Espagne ou l'Angleterre. Ils jouent l'Espagne en 8e.
Ils ont un très gros parcours à venir. Alors j'espère me tromper et qu'ils vont eux aussi monter en gamme.
On l'espère tous, mais franchement, il n'y a aucun élément.
Alfred, t'es inquiet pour le Portugal?
Pas vraiment. Moi, le Portugal, je pense que même le leader lui-même, il est un peu fatigué. C'est la fin de cycle. Donc après, c'est plus comme avant le Portugal, avant où il y avait de grands joueurs. Maintenant, aujourd'hui, et pour moi, le Portugal revient. Ouais. C'est surtout le Congo que moi, j'ai à féliciter.
Ils sont allés chercher leur qualification, qui était loin d'être évident.
C'est la deuxième qualification du Congo en Coupe du Monde. Et puis surtout, Juan Wissa, qui lui est revenu de blessure.
C'est le demi-dieu du pays.
Honnêtement, ça, il faut reconnaître que le Congo... revient très fort.
Et longtemps mené hein, par l'Ouzbékistan hein, dans un match. Donc, grosse force de caractère.
Grosse force de caractère.
Et on l'a dit, hein, excepté la Tunisie, tous les pays du continent africain se sont qualifiés pour les 16e. Bon, alors, on verra comment ça se passait après pour les 16e. Mais la France
est
déjà sortie.
Ce qui est en plus, pour moi, pas volé. Parce que de tout ce que j'ai vu des pays africains, mis à part évidemment la Tunisie et donc l'Afrique du Sud, que j'ai trouvé un petit peu en deçà, ils ont vraiment fait des très bonnes performances. Je pense notamment aussi au Ghana,
qui a montré
une magnifique force de caractère aussi.
On va en parler justement.
Et des très bons matchs.
Ouais. Ça tombe bien parce que c'était le dernier groupe de ces phases de poule. Donc l'Angleterre-Ghana 0-0 quand même. Hein. Nos amis anglais qui avaient été impressionnants contre la Croatie.
C'est un bon 0-0.
Et ils ont eu chaud les Anglais.
Ils ont eu très très chaud les Anglais.
La Croatie qui avait battu le Panama 1-0. Victoire de la Croatie devant le Ghana 2-1. Et puis l'Angleterre qui finit quand même par une victoire contre le Panama. Donc 2-0. Donc l'Angleterre qui gagne avec 7 points devant la Croatie, deuxième 6 points. Troisième, le Ghana, 4 points. Donc, à 4 points, on est pratiquement qualifié pour le 16e. Et quatrième, le Panama, 0 points. Voilà, donc l'Angleterre, quand même. Vous voyez, il faut toujours rester très méfiant pour l'Angleterre.
Hein. Il nous avait quand même enchanté face à la Croatie avec beaux principes de jeu.
Bah, c'est dur. Hein.
Mais là, pour le coup, on est retombé de très haut, notamment lors du match face au Ghana où ils ont vendangé comme pas possible devant la cage. Ils sont tombés aussi face à une équipe du Ghana qui a imposé un défi physique où on pensait que les Anglais allaient pouvoir répondre. Et ce fut compliqué. Ils ont dominé, mais une domination stérile, si je puis dire. Les occasions, ils les ont eues, ne les ont pas mis au fond. Et puis derrière, le Ghana a à la fois bétonné, mais aussi a réussi à s'approcher à plusieurs reprises de la cage de Jordan Pickford. Donc,
ils auraient pu bénéficier d'un penalty.
D'un carton rouge.
Penalty, carton rouge. Franchement, ils ont été assez mal payés.
Hein. Ouais, ce match-là, c'était très très dur.
Oui, on se rappelle, le Ghana qui avait fait une belle Coupe du Monde 2010. Hein.
Oui, et qui s'est fait voler par l'Uruguay.
La fameuse main.
Bon.
Oui, mais le Ghana, je veux bien rejoindre qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde dans le passé, mais aujourd'hui, quand on regarde les frères Ayou, ça ne produit pas grand-chose.
Les grands frères Ayou.
Le Ghana doit reconstruire encore.
Tout à fait.
Pathé, il est là, mais bon, comme je dis, voilà, ça joue la résistance. C'est le Ghana, mais voilà, ça ne fait pas trop peur, comme il faut le dire.
Non, mais ça reste, selon moi, une bonne performance pour le Ghana de se qualifier quand même pour sa 16e de finale. Ça reste vraiment positif.
Oui, parce que
c'était pas gagné
sur le papier.
Parce que même le Panama qui est éliminé fait aussi, mine de rien, pas une mauvaise phase de poule. Je pense au match contre l'Angleterre où ça a été longtemps assez indécis. Bon, ils ont été dominés, mais ça a été assez indécis. Donc,
même une barre du Panama, je crois.
Oui, complètement. Une barre du Panama, tout à fait.
Donc, parmi les équipes éliminées, la logique est respectée, sauf peut-être pour l'Uruguay et la Turquie qui auraient pu prétendre jouer le 16e.
C'est la Turquie la plus grosse déception.
Ouais, sinon le reste, c'était dans la logique des choses.
Ouais.
Même la Tchéquie. Hein.
Oui, la Tchéquie. C'est franchement, il n'y avait rien d'extraordinaire dans l'effectif tchèque. Le fait qu'il termine dernier, c'est. Je vais pas dire que c'est une juste place, mais voilà, il y avait pas grand chose à retenir de la République tchèque sur cette Coupe du Monde, malgré la présence de certains joueurs qu'on connaît en France. Hein, je pense à Pavel Schultz, entre autres, mais c'est pas suffisant. Hein, c'est pas la République tchèque Euro 2004 avec du Pavel Nedved, avec du Jan Koller. Malheureusement, ce temps-là est plus que révolu.
Un temps, on les craignait, nous.
On peut pas trouver des excuses pour toutes les équipes. Enfin, il faut des éliminer, quoi.
Voilà,
il y a eu des belles histoires avec Haïti, mais.
Parmi les deux premier de chaque groupe, sur les 8 qualifiés, il y en a eu 6 à 4 points et 2 seulement à 3 points. On disait qu'il fallait relever donc les 3 points, c'est le Sénégal et puis le Cap-Vert.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc ça, c'est quand même... ça prouve quand même qu'il fallait au moins...
Une victoire
ou alors...
Et surtout une victoire bonifiée avec beaucoup de buts.
C'est plutôt ça, parce que c'est
la différence de buts qui a départagé pas mal d'équipes.
Ouais. Allez, on va faire une petite projection maintenant sur les 16e. Bon, on a parlé du match entre l'Afrique du Sud et puis le Canada. Il se passe actuellement, donc Japon-Brésil, toujours 1-0 à la 44e minute pour le Japon qui est en train de pousser... actuellement, Allemagne-Paraguay ce soir. L'Allemagne en principe.
Oui, largement.
Il y aura pas de surprise ce soir.
Il y aura pas de surprise ce soir.
Ouais. Bon,
du côté de l'Allemagne, ils vont faire le travail.
Restez éveillés pour le match d'après.
Alors,
va vous l'annoncer.
Alors,
il va falloir tenir jusqu'à 3h du matin, mais on a sans doute ce qui ressemble à l'affiche.
L'affiche,
ça va être dur.
Quoi qu'il arrive, il y a un gros qui va tomber là.
Pays-Bas-Maroc.
Alors,
C'est dur à dire parce que les deux équipes ont tellement d'arguments, tellement de bons arguments. Du côté du Maroc, on pense notamment au milieu de terrain que je trouve étincelant. Nel El Nelaoui et Ayoub Bouadi. Ismaël Saïbari qui a pris la mesure du poste de numéro 9 dans l'axe de l'attaque marocain. La défense aussi qui est au rendez-vous.
Oui.
La défense, Achraf Hakimi parmi ses leaders. J'aime bien l'axe aussi avec Issa Diop. Ouais. Mais voilà, il y a de bons arguments du côté du Maroc, mais face aux Pays-Bas, franchement, ça va envoyer du steak. Hein.
C'est... Moi, je vois un petit avantage quand même pour le Maroc. Mais enfin, on verra.
Moi, j'aurais dit aussi Maroc.
Alfred, c'est le Maroc, c'est... nous, devant les Pays-Bas.
Je dirais Maroc parce que jusqu'à présent, le Maroc a encore l'effet Coupe d'Afrique en jambes.
Oui, exactement.
Et la projection du Maroc, c'est pas pour maintenant, c'est surtout pour le Mondial 2030.
Donc, oui, ça continue quand même. Voilà. On sait que c'est une équipe qui a franchi un palier depuis sa Coupe du Monde. Oui, hein, maintenant, voilà, ils l'ont confirmé à la CAN, malgré la finale perdue. Bon, voilà, ils l'ont quand même confirmé. Donc, à la CAN, c'est un pays qui a franchi donc un certain.
Et déjà en 2022 palier. Aussi.
Déjà en 2022.
Oui,
mais bah, c'est vrai que ça ne fait plus partie, selon moi, des petites nations.
Ah oui, largement.
Et ça fait partie déjà, ça faisait partie des grandes nations africaines. Maintenant, ça fait partie des grandes nations mondiales dont on est habitué à aller voir au plus haut niveau.
Top 10 UEFA. Voilà.
On l'a dit, il y a toujours une équipe de fois surprise.
Oui, mais là, le Maroc ne fait pas partie de cette acabit.
Qui fait une Coupe du Monde, comme on a eu la Turquie, la Corée du Sud, à certains moments, même d'autres années, la Suède ou la Bulgarie. Mais voilà, donc, puis c'est l'effet d'une année, quoi. Donc après, voilà. Alors, parmi les autres matchs intéressants, on l'a dit, Portugal-Croatie, ça sera dans les prochains jours. Ça va être compliqué.
Le match des retraités, match de la maison de retraite des Glaïeuls.
Pas beaucoup de buts, je pense.
C'est pas beau.
Ah bah, à un moment donné, il faut être factuel, les gars. Lucas Modric, 40 ans, face à Cristiano Ronaldo, 42 ans. Il y a deux ballons d'or sur le terrain. Non, plus sérieusement, c'est un match qui sur le papier, est très ouvert. Parce que ce sont deux équipes qui ont quelques arguments à faire valoir.
Là aussi, un grand nom va tomber.
Et là aussi, un grand nom va tomber. Puisque le Portugal qui chasse encore et encore sa Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo, ça va faire 6 éditions, face à la Croatie, finaliste de l'édition 2018.
Et puis qui a quand même été dans le Caredas. Et qui a été dans le Caredas. En 98, et puis en 2022.
En 2022,
en plus de leur finale perdue face à nous. Donc,
tout à fait.
C'est une équipe habituée au grand rendez-vous.
C'est une équipe habituée au grand rendez-vous. C'est un groupe qui se connaît depuis très longtemps, qui a eu très peu de retouches aussi entre 2022 et aujourd'hui. Donc maintenant, ça va être un match ouvert entre les problèmes internes du Portugal face à l'effectif expérimenté de la Croatie. Ça risque d'être un match assez ouvert, je pense.
Oui. Espagne et Autriche.
Normalement, pas photo.
Pour moi, c'est un traquenard. C'est un traquenard. Je vois des prolongations. Je sais pas pourquoi. Espagne-Autriche, je vois des prolongations. Je peux peut-être me planter. Qu'on soit d'accord, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, n'écoutez pas mes pronostics. Parce qu'il se passe à chaque fois le strict opposé de ce que je dis.
C'est pour ça qu'on aime le foot.
Voilà. Non. En vrai, je vois un traquenard. Parce que, effectivement, on en a parlé depuis le début de l'émission. L'Espagne, ça n'a pas été folichon quand même dans le jeu. Alors oui, Lamine Yamal est revenu sur blessure, il a eu du temps avant de prendre du rythme, mais je les ai pas vus si convaincants que ça sur le terrain.
Je crois que Nico Williams, par exemple, là, sa Coupe du Monde, c'est out, s'est blessé.
Ouais.
Et il y a un deuxième joueur espagnol, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est un milieu qui s'est blessé aussi, pareil, out. Je sais pas si c'est Zubimendi ou un truc comme ça, mais out toute la Coupe du Monde aussi, donc gros absent là.
Gros absent, gros absent et gros taulier de l'équipe, de l'équipe titulaire. Et puis, comme on le dit, l'Autriche, on a beau parler d'Autriche comme étant une petite équipe européenne, c'est l'équipe quand même qui est expérimentée dans les compétitions continentales, et je les vois bien embêter, au moins imposer un défi physique face à l'Espagne, peut-être de là aller chercher une...
C'est la mi-temps.
Mi-temps, donc 1-0 pour le Japon face au Brésil. Voilà, donc ça n'a pas changé. Mi-temps donc favorable aux Japonais pour le moment. USA-Bosnie, on en a parlé, on l'a évoqué. Belgique-Sénégal aussi, on a dit que ce sera un match très compliqué.
Moi, je mets une pièce sur le Sénégal. Le Sénégal a clairement ses chances.
Moi aussi.
S'ils ont été décevants.
Je mettrai une pièce sur le Sénégal, comme je viens de dire. La Belgique est en fin de cycle. Elle a des individualités. Tout à l'heure, il a cité Doku et tout ça, mais ça ne suffit pas pour gagner.
Maintenant,
c'est plus la Belgique qui faisait peur au temps des Hazard, où il y a eu la période où ils ont démontré de quoi ils étaient capables, même s'ils devaient perdre. Mais au moins, ils faisaient quand même honneur au pays. Au niveau des individualités, ça avait quand même de la gueule. Donc aujourd'hui, Romelu Lukaku ne peut pas terminer un match. Donc quelque part, il y a qui au milieu de terrain. C'est un peu difficile. Donc Je mettrai une pièce sur le
Sénégal. C'est vrai que le Sénégal était un mauvais tirage pour la Belgique parce qu'on se souvient de l'impact physique qu'ils ont imposé aux Français en première mi-temps dans le France-Sénégal. J'ai du mal à voir Kevin De Bruyne survivre à cet impact-là arrivent à le mettre pendant 60 minutes quasiment. Donc, ouais.
Alors Côte d'Ivoire-Norvège, ça aussi.
Grosse affiche.
L'opposition de style, ça c'est sympa.
Grosse affiche.
C'est aussi un match tranquille.
On va voir les cadres norvégiens. Ouais. Enfin, l'équipe norvégienne va revenir.
La vraie équipe norvégienne, parce qu'on va pas arrêter de dire ouais, ça va, c'était l'équipe B.
Les vrais Vikings.
Ouais.
Les vrais Vikings.
Ouais, les vrais Vikings.
J'ai une question pour vous. Pensez-vous pas qu'il a réservé à Londres pour justement le mettre.
Bien sûr, c'est toute l'équipe.
Oui, c'est l'évidence. La plupart des titulaires qu'on connaît bien
au frigo
et tout, ils ont été. C'est une bonne blague. C'est une très bonne blague. Ils ont été mis au frigo, ils ont été mis au frais pendant ce troisième match, étant donné que les deux équipes étaient qualifiées. Donc ça a permis de faire souffler les tauliers. Là, on va les retrouver, ces fameux tauliers, face à la Côte d'Ivoire.
C'est très fort,
la Côte d'Ivoire.
Diomandé, moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné depuis le début de cette Coupe du Monde, Diomandé.
De toute façon,
on en parle là sur le mercato et tout. Ça va être la rosta du prochain mercato, de toute façon.
C'est le gros feuilleton.
Mais très très impressionnante, la Côte d'Ivoire. Moi j'aime beaucoup. Je mettrais même peut-être une pièce sur la Côte d'Ivoire.
Moi personnellement, je mets une pièce aussi sur la Côte d'Ivoire. Et je vais même encore plus loin. Parce que toi, t'as cité Yann Diomandé. Moi je citerais même Chris Inaou Oulahi.
Qui est très fort aussi.
Qui est très très fort. Qui apprend très vite du haut niveau, le monde du très haut niveau. Il m'avait impressionné face à l'Allemagne. Notamment par ses percées depuis la surface, depuis sa propre surface jusqu'à la surface adverse, qualité de passe, vision du jeu, qualité de dribble, toujours dans le sens du jeu. Clairement, j'aimerais bien le revoir titulaire cette fois-ci. Parce que j'avais dit que je pensais qu'il allait être titulaire sur le troisième et dernier match de poule, et il est rentré en deuxième période. Là, honnêtement, s'il peut faire un match complet et vraiment marquer de son empreinte comme Diomandé l'a fait, je pense que là, c'est le moment.
C'est vrai qu'on a quand même tout de suite vraiment presque pas mal de 16e de finale déjà haletant.
Mexique-Équateur, ça les inspire aussi.
C'est un très gros match pour le continent sud-africain.
Le Mexique est vraiment mal payé de se taper l'Équateur parce que franchement, ils ont fait une magnifique phase de poule et là, ils se retrouvent.
Pour moi, l'Équateur, c'est chaud. Hein. Donc, quelque part, voilà la preuve qu'ils ont montrée face à l'Allemagne. Je ne pense pas qu'ils vont baisser les bras face au Mexique. C'est le long qui est en jeu. Il y a eu une journée qui a été décrétée là-bas.
Ils en veulent encore.
Ils en veulent encore.
Et puis là,
pour moi, ça reste un match ouvert et très, très, très chaud, intensif.
Et là, ça va être la définition même de la grinta. Parce que le Mexique, quand il joue, ça met des coups partout, ça saute partout. L'Équateur, c'était pareil.
L'Équateur, ça s'est moitié des boîtes.
Ça se bat sur tous les ballons. Donc
ça prend des boîtes, mais ça s'est mettre des boîtes aussi.
Une boucherie.
Angleterre, République Congo, on l'a un petit peu évoqué.
C'est le match exotique.
Ils vont les bousculer. Les Congos vont bousculer les Anglais.
Ils peuvent les bousculer, mais je sais pas si ça va tenir à l'usure. Parce que lors de la CAN, on pointait le manque d'efficacité offensif du Congo lors des grands matchs, lors des matchs qui comptent. Là, face à l'Angleterre, faudra pas se rater. Je pense à Cédric Bakambou, je pense à Yohan Wissa. Faudra vraiment pas se rater parce que l'Angleterre, ils ont les moyens, malgré tout, de pouvoir punir assez rapidement les équipes adverses. Ils sont favoris, mais c'est plus que d'être favori, c'est comme on disait Allemagne-Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire avait eu les occasions pour ouvrir le score, égaliser, gagner le match,
ils l'ont pas fait.
Derrière, l'Allemagne a pu répondre en disant ils ont pas saisi leur chance, ça va être notre tour de les achever. Là, ça risque d'être pareil. Angleterre-Congo, ça risque d'être pareil. Ouais. Donc attention, Congolais, s'ils veulent faire quelque chose.
Alors, Argentine-Cap-Vert, on en a parlé. La consécration pour le Cap-Vert.
S'ils le font, c'est.
Profitez de ces 90 minutes de gala.
Messi, voilà.
Comme on dit, c'est 11 humains contre 11 humains. 11 humains contre 10 humains et Messi.
Voilà, c'est
la vraie définition. C'est ce que j'allais dire.
Ensuite, Australie-Égypte.
Là, c'est le match où vraiment j'ai très peu de lecture perso. Je sais pas ce que vous en pensez.
L'Égypte, je trouve que c'est une équipe surprenante parce que je ne les attendais pas à ce niveau-là. Marmouche, j'aime bien Salah, je trouve qu'il fait une bonne Coupe du Monde.
Il a retrouvé son niveau influent parce que c'était compliqué.
Je vois bien l'Égypte.
Soyons honnêtes, après tout ce que tu nous as annoncé, c'est quand même celui qui nous donne peut-être un peu moins envie.
Voilà, c'est ça.
Celui-là, si on potentiellement le rater, s'il est à 3h du matin, je préférerais dormir peut-être.
Après, toi, t'en penses quoi?
Pour moi, l'Égypte prendra le dessus. Pourquoi? Parce que l'Australie n'est pas une grande nation du football. Donc, quelque part, l'Égypte reçoit ma foi de la CAN. Après, il y a Salah, il y a tout ce qui est aux entours. Donc pour moi, l'Égypte fera quand même bonne impression.
On verra. C'est sûr. Suisse, Algérie, attention.
Oh, Ouais, sur le papier, c'est pas si évident.
Ouais, attention là.
Suisse-Algérie, c'est pas si évident parce que la Suisse a fait une bonne phase de poule, c'est vrai. Il y a un joueur qui ressort de manière.
Mazembi.
Voilà, Mazembi de manière assez forte, c'est Yohan Mazembi. Mais ouais, l'Algérie, c'est pas une petite équipe. Hein. Comme j'ai dit, il y a du caractère dans cette équipe. Tout n'est pas parfait, mais il y a du caractère. Et face à la Suisse, bah, ils ont potentiellement les moyens de passer. Notamment avec un gros défi physique, hein, parce que oui, l'Algérie, ça sait jouer au foot, mais ça sait aussi envoyer des boîtes quand il le faut. La Suisse, sur le plan physique, moi, je les ai pas trouvés si étincelants. Hein, avec des phases où, lorsqu'ils laissaient le ballon à l'adversaire, ils finissaient presque dans leur cage, quoi. Ouais. Donc, il y a un coup à faire pour l'Algérie s'ils veulent passer.
Et le dernier 16e qui nous intéressera, hein, ça sera Colombie-Ghana. Voilà.
Là aussi, bon courage aux Black Stars.
Ouais.
Bon courage aux Black Stars.
Ouais, parce que franchement, la Colombie, moi, c'est vraiment pareil, une grosse surprise. Hein. On les sait toujours assez forts et entre guillemets un petit peu embêtant à jouer.
Ouais.
Mais là, j'étais vraiment assez impressionné. Mmh. Donc, oui, comme tu dis, bon courage au Ghana.
Bon courage au Ghana. Hein,
je pense que la fin de parcours se situera là pour le Ghana.
Ouais.
La marche sera un poil trop haute.
L'équipe qui est quand même habituée au 8e de finale. Hein,
je pense que ça devrait le faire sans trop de problèmes pour la Colombie.
Mmh. Ouais, c'est ce que
Alfred,
je pense.
Pour finir, t'en penses quoi?
Écoutez, il faut donner la possibilité à faire aspirer la Colombie. Il faut être honnête avec soi-même. Tu dis tout à l'heure que le Ghana, c'est vrai, ça reste une grande nation africaine de football, mais aujourd'hui le Ghana fait pas peur. Et la Colombie, c'était un habitué de la Coupe du Monde. Donc il y a eu le passé, même jusqu'à présent, comment il s'appelle, Lucas Jouréal qui passe au Bayern, il est toujours là, comment il s'appelle
Rames Rodriguez.
Il joue
60 minutes, hein, il sort à la 60-65e.
Je pense que la Colombie prendra le dessus. Faut être
oui.
Voilà, ben on va finir juste un petit mot. Tu avais un petit mot concernant le mercato.
Oui,
de mercato dans cette émission consacrée au mondial. Bon, il nous reste deux petites minutes.
Très, très rapidement. Oui, oui. Hein, bon, c'est très, très pro-parisien. Oui.
Mais tu voulais en parler.
Je voulais en parler. Gonçalo Ramos qui quitte le Paris Saint-Germain.
C'est officiel.
Il jouera au Milan AC la saison prochaine. Indemnité de transfert de 75 millions d'euros. C'est très bien vendu quand on sait que le PSG l'a acheté 50 millions il y a 3 ans. Pour moi, c'est le meilleur super sub de l'histoire qui a quitté le club parisien.
Ouais, franchement,
on est tous unanimes là-dessus. Enfin, je dis on, mais surtout tous les supporters parisiens sont unanimes là-dessus. Au-delà du fait que oui, quand il débutait les matchs, c'était compliqué, mais quand il était en sortie de banc, ça faisait but, ça faisait ficelle.
Ah ouais,
il
a marqué un nombre de fois
incalculable. Ouais. Merci pour la Super Coupe d'Europe.
Pour le Barça aussi.
La victoire du titre du match.
Le trophée des champions.
Contre Tottenham, c'est lui qui marque le but égalisateur, le but du 2-2. Je parle de Tottenham, mais Marseille surtout. Toute fin du match. Donc, c'était.
C'est un des premiers joueurs avec le back-to-back à partir. Voilà.
Tout à fait.
Ça fait bizarre.
En attendant, potentiellement, Kangin Lee, qui lui est très très proche de rejoindre l'Atlético Madrid. On parle d'une somme de 35 millions d'euros sur la table.
Très bien, messieurs, merci en tout cas. Et puis on va maintenant marquer une deuxième mi-temps avec El Hadji et d'autres intervenants. Belle soirée à toutes et à tous. Et puis n'oubliez pas demain, l'avant-match 22h-23h et ensuite le match en direct comme chaque match pour l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde. Allez, dans un instant, El Hadji et les copains qui prennent leur lait.
Bonne soirée
à tous.